Les Highlands. Neuvième jour du cinquième mois de l'an 2325, nord du plateau oriental. Louge, notre rescapé, a commencé par respirer tout son soûl. Je l'ai aidé à gérer les conséquences fécales de sa brève promenade dans le vide, j'ai vérifié l'état de ses tympans, de ses poumons, et j'ai aspiré la poussière. Louge a ensuite bu comme une éponge et avalé la moitié du paquet de protéines de route offert par Nas. Puis il a pris la décision de gémir. C'est un invariant chez les citadins sous-lunaires. Ils se plaignent quand leur existence est en danger et se plaignent encore quand elle est sauvée. Il s'agit d'un mystère, un de plus.
Mais pourquoi avez-vous mis tant de temps à me trouver? Et le sas de Wamai, pourquoi n'était-il pas sécurisé? Ces fermes sont de vraies passoires. C'est leur faute si mes copains sont morts. Et moi me voilà coincé entre la justice et le remords.
Puis Louge a sangloté au souvenir de Polo et Toche. Je n'ai pas tenté de lui apporter un soutien moral. La mentalité des gens de Pakpapatapon n'est pas celle de Mut. Elle est beaucoup plus stratifiée. À Pakpapatapon, les descendants des Tagalogs occupent les quartiers les mieux éclairés et les Atas se contentent des plus sombres. Quand ils se croisent, les regards des uns glissent sur les autres, comme une lame sur la glace et réciproquement. Les cultures ne se mélangent jamais, mais elles s'entendent sur un point. Rejeter tout ce qui est marqué du sceau infamant de la surface, d'une autre cité et, à vrai dire, tout ce qui n'est pas purement Pakpapatapon. Aux yeux de Louge et de ses semblables, le rover et moi sommes ravalés au rang de simples phénomènes naturels comme le froid ou le vide, ou de camps aménagés, des serviteurs, des outils. Il n'est pas simple dans ces conditions de proposer un câlin. J'ai quand même tendu un mouchoir à Louge en me disant que ça aurait pu être pire. Il aurait pu être Théatème. Les Théatèmes se distinguent des autres cultures lunaires. Leur port inégalable ressemble à une déclaration de guerre à la lune entière, et ils me vouent une haine absolue. Ils haïssent tous les serviteurs des cités, par principe racial. Quand je me rends à Pakpapatapon, ou dans toute autre cité où survivent encore quelques familles Théatèmes, je n'habite pas leur quartier, bien sûr. Ma présence est légale, mais je ne m'y attarde pas. Ayant suffisamment gémi, Louge a paru se ressaisir.
Où m'emmenez-vous?
À Etken, près du pôle sud, chez le gardien de l'usine de glace. Il est de bons conseils et il a un sous-sol viabilisé. Dans sa joie de ne pas être livré à la maréchaussée de Pakpapatapon, Louge a retrouvé un peu de l'éducation exquise que les Tagalogs donnent à leurs enfants. Et à mesure que l'œdème dégonflait, j'ai enfin pu apprécier la rare harmonie de ses traits. Nas ne m'avait pas prévenu. Il a pourtant été doté, comme moi, d'une sensibilité particulière à la beauté. Louge a ensuite posé 1000 questions sur notre itinéraire, et 1000 autres sur le rover, sa solidité, ses réserves. Ce bavardage m'a remis en mémoire mes propres interrogations. D'où vient le fait que les sous-lunaires passent tant de temps à poser des questions sans écouter les réponses? Je connais le principe du papotage. Mais ni le rover ni moi ne sommes un groupe d'inconnus dont il faut évaluer l'humeur, ou de proches avec lesquels il faut entretenir des liens. Et j'ai pu, pour une fois, m'apporter une réponse. Ce n'est pas tant l'espace sonore que Louge cherchait à remplir que son espace mental. J'en ai déduit qu'il était terrifié. Louge a fini par se taire, probablement fatigué de son propre vacarme. Il se tenait très droit malgré les chaos, dans la posture fière et lointaine d'une statue qu'on admire et qui ne voit rien. Sa peau avait le lustre d'une feuille de houx. Sa face aux mâchoires insolentes était idéalement lisse et ses yeux sombres semblaient deux baies de Troène. Son cou fin était posé sur de vastes épaules. Ses longues cuisses étaient déjà adultes, tandis que le velouté de ses joues appartenait encore à l'enfance. Sortant de ma contemplation, j'ai compris que Louge était devenu, un bref instant, ce pillard qui me vole à moi-même. J'ai senti quelque chose de paradoxal s'éveiller en moi. Le flou mental qui a suivi la perte de Sileki a brutalement baissé, remplacé par une intense concentration focalisée sur Louge. De toute évidence, je vais pouvoir échanger avec ce citadin. Je vais passer avec lui un assez long temps. Mais ce temps n'aura-t-il, entre lui et moi, le même genre de lien que celui que j'avais avec Sileki? A priori, non. Nous n'avons pas de jardin à cultiver ensemble. Ce qui m'a poussé à remarquer qu'il y a beaucoup moins de mini-colas dans le paysage depuis Pakpapatapon. Considérant la vitesse d'invasion de la mini-cola, je parie que ce paysage-là ne perd rien pour attendre. Nous avons abordé les Highlands et le rover s'est arrêté pour permettre à Louge de dormir plus facilement. J'entends les joints et les réseaux du rover ronronner tandis que la machine se livre à un long check-up suivi de multiples réparations. Le régolithe est un ponceur sans pitié. Autour de nous, les Highlands étirent leur relief fracturé. Les fragments de murs, mâchés par les météorites comme par des molaires dantesques, ressemblent à des statues brisées. Les vallées étroites, comblées de régolithes, sont traversées de fissures vertigineuses et d'éboulis ternes comme du vieil étain. Des lacs de poussière, gaufrés ou lisses, miroitent sous le feu blanc des étoiles entre des falaises abruptes. Au loin, l'énorme Sélène couronne le paysage d'un diadème obscur, formidable et trapu. La face cachée de la lune ressemble à un tas de sable avec lequel mes enfants ont joué autrefois. L'antique terrien qui a décrit le grand large, de cette façon, devait avoir des enfants colossaux. Tandis que l'ouge ronfle, la joue contre le duraglace, je poursuis ma méditation. Je vais partager un peu de temps avec lui. Mais je n'aurai certainement pas le loisir de lui transmettre une partie de mon savoir horticole. Et quand bien même, l'incertitude intérieure qui m'avait quittée regagne du terrain. Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse. Cette citation s'est imposée à moi. Je me demande pourquoi. Pourquoi celle-là et pas une autre? Il semble qu'un crible personnel laisse passer certaines phrases. Qu'est-ce qui a pu faire de moi un filtre particulier? Les aléas de mon existence que les mots ont ordonnés en un long récit, comme les rives d'un cours d'eau. C'est ce qu'on appelle une individualité, je crois. Mon individualité se demande toujours ce qu'elle va bien pouvoir faire de l'ouge. Profiter de mon voyage retour pour le remettre aux autorités de Pâques Papa Tapon? Le déposer ailleurs? Je verrai ça avec le gardien des glaces. Il est toujours de bons conseils. 10e jour du 5e mois de l'an 2325. Highlands. Le rover a mis le cap au sud du cratère Korolev. Nous allons désormais voir le gardien de l'usine de glace d'Etken, laquelle n'est pas démesurément loin de la cité franche. L'ouge sera à l'abri là-bas, le temps de tirer sa situation juridique au clair. Il n'y a guère que le gardien des glaces, un des plus fins juristes lunaires, pour dénouer une affaire si complexe. Il saura trouver les textes de loi les plus favorables à l'ouge et me dire à quelle autorité le remettre pour que je sois certaine qu'il aura droit à un procès équitable. L'ouge n'est plus aussi bavard. Il s'est réveillé chiffonné. Peut-être a-t-il mal dormi. Il se contente de scruter le paysage au dehors avec anxiété. Il a fait quelques allusions à Tosh et Polo. Il paraît les regretter, mais surtout, ce qui est étonnant, il les craint. À l'entendre, si les deux petits ont passé le seuil de la mort, ils laissent derrière eux deux ombres qui s'étirent immensément sur les sables lunaires. C'est supposé qu'ils cheminent encore, face à un soleil éblouissant. Comme nous passions le gué de Shingareva, juste après les deux mamelons, l'ouge a frappé son front et sa bouche plusieurs fois. Il semblait avoir aperçu quelque chose sur le dévers à notre gauche, peut-être la fuite d'un robot fou. Quoiqu'il n'y en ait pas beaucoup dans les Highlands. Ou le panache d'une chute de météorite que son angoisse aurait transfigurée. Il a marmonné des incantations qui lui ont apporté un peu de soulagement. Je crois qu'il a peur de Tosh et Polo. Ou plus exactement, il a peur des spectres de Tosh et Polo. Les citadins sous-lunaires ont, pour leurs défunts, une fascination égale à leur répulsion. Ils ne leur marchandent ni les rites, ni les pleurs et les chants. Pourtant, ils les redoutent comme si la mort transformait le personnage le plus affectueux en dragon assoiffé de sang frais. Leurs façons d'honorer un corps sont autant de mises à distance. Ils le brûlent et scellent les cendres. Ils le plongent dans un puits ou l'emmurent derrière une pierre énorme, d'autant plus énorme que le défunt laisse des regrets. S'il s'agit là de symboles, mais ils sont inopérants. Quelle que soit la taille de la pierre tombale, la profondeur du puits ou l'étanchéité de l'urne, les esprits trouvent le moyen de se glisser par un interstice et de revenir parmi les vivants. Les citadins sous-lunaires les voient partout, dans des rêves, des coupes d'eau ou des miroirs. Ils les entendent chuchoter au fond des sources et parler par la gorge des oiseaux. Ils les aperçoivent dans les rues, la nuit, derrière les amples ruissellements végétaux des cimetières verticaux, parmi les bosquets ou à la cime des arbres, dans l'obscurité des grottes de lave, des latrines et sur toute la surface. Au fond des cratères, en haut des pitons, dans le disque bleu de la terre et même, volatile et fuyant, parmi les dégazages colorés. L'ouge a fini par me confier ses angoisses mortuaires.
Vous connaissez les Bilkos? Ce sont des lutins diaboliques, aux ongles longs, qui habitent les revers des murs. Leur bouche s'ouvre assez grand pour avaler un être humain en entier. Et vous connaissez Kamba? C'est le seigneur des enfers. Il finira par tout dévorer, jusqu'au trou noir, jusqu'au vide lui-même, jusqu'au temps.
Le malheur coulait de la bouche de Louge et la buée de son souffle semblait dessiner, sur le dur à glace, des formes bizarres. Gris de frayeur et tremblant de tous ses membres, il a avoué.
J'ai rêvé des visages gelés de mes deux amis se pressant contre la coque du rover. J'ai rêvé de quatre petits bras brillants de gel qui se tendaient vers moi pour me saisir et me traîner sur le sable, jusqu'au fond d'un gouffre d'obscurité immuable.
Je dois admettre que Louge a un talent de conteur. Afin de dissiper ses craintes, je lui ai proposé de s'aventurer à mes côtés, dans un de ces gouffres d'obscurité immuable. Il y en avait un à proximité, le Trin Xuan Tuan. Les premières terrasses sont équipées d'une rampe d'accès qui servait autrefois à acheminer les glaçons de minerai. Tu veux venir constater par toi-même qu'aucune entité étrange ne s'y cache? Je n'ai pas eu de succès. À la fin de l'étape, comme Louge grelottait toujours, j'ai dilué un anxiolytique dans son jus vitaminé. Il s'est endormi assez vite. Le rover a de nouveau fait halte. 10e jour du 5e mois de l'an 2325. Highlands. Je me surprends à scruter moi aussi le paysage accidenté des Highlands. Je songe à une histoire que m'a racontée Ager, le contrôleur de l'entrée de Mute. C'était l'histoire d'un robot fou qui entraînait les chasseurs au fond des cratères. Quoique fou, il était si plein d'habileté et de malignité que les chasseurs le craignaient. Il le disait hanté non par un esprit, mais par toute une cité fantôme. Chapez l'enfouit. J'ai réussi à le mettre hors service après une chasse épique. Mais même après l'autopsie, je n'ai jamais compris la cause de la redoutable sournoiserie de cet engin.
C'était un rover?
Même pas. Ce n'était qu'une nettoyette autoportante modèle T. Du temps de son service, elle n'aurait jamais été capable de se déplacer aussi vite, ni de concevoir aucun plan complexe. Elle n'avait qu'un capteur de mouvement et il était grillé. Comment, avec si peu d'atouts, cette nettoyette a pu dérouter même des rovers expérimentés, au point qu'une chasse entière a basculé dans une faille? Ça, je ne l'explique pas.
Ni Ager ni moi ne faisons confiance aux aptitudes des chasseurs de robots fous. Mais tromper un rover, c'est autre chose. Bien sûr, l'explication est simple. Avant d'être jeté au rebut, la nettoyette avait sûrement été optimisée par un de ses propriétaires. Et celui-ci devait être un électricien de génie. Cependant, me rappeler cette histoire m'a mise dans un certain inconfort. C'est la preuve que moi aussi je commence à peupler le vide d'images ambiguës. Je vais m'abstenir de raconter l'histoire de la nettoyette hantée à Louge, lequel a commencé à ronfler. J'ai doucement déplacé sa tête pour dégager les voies respiratoires. 11e jour du 5e mois de l'an 2325. Highlands. Nous passons au large du cratère Korolev. Tandis que nous longeons les ruines des minarets, des mandirs et des clochers, je pense aux invasions primaires. Car sitôt installés sur la Lune, les humains se sont empressés de se déclarer la guerre entre cités. Ce n'était alors que de simples bases lunaires qui se cherchaient de simples querelles à propos de minerais ou de frontières de leurs zones économiques exclusives. Très vite, les querelles sont devenues sanglantes. Les scaphandres crevés jonchaient le régolithe, les dômes des bases explosaient comme des supernovas. Quand les humains ont fui les rayons durs des vents solaires pour habiter dans les tubes de lave, il y a eu encore plus de guerres. Les invasions primaires, c'était ça. De véritables raids lancés par une cité contre une autre et menés à dos de rovers militarisés. Les armes balistiques trouaient le dur à glace, les bombes magnétiques grillaient tous les systèmes de survie et l'on voyait, dans le vide, le sang rouge qui se mettait à bouillir. Il a fallu bon nombre de catastrophes, dont l'explosion de la cité sous-lunaire de Chapez. Il a surtout fallu que la surmortalité due à l'aspic se répande dans toutes les cités pour que cesse cette folie. Les sous-lunaires n'ont plus assez de chair pour la livrer au canon. Ainsi je médite, tout en admirant les ruines des minarets et des clochers. Primaire, il fallait l'être pour ériger des monuments voués aux appels à la prière sur une planète sans atmosphère. À l'époque où ces temples ont été construits, tout le monde n'était pas réfugié dans les tubes de lave, tant s'en faut. Les lunaires venaient de loin pour vendre leurs robots sur le grand marché de Korolev. Avant de les mettre à l'encan, ils les couvraient de pierres précieuses. Un processeur coûtait alors beaucoup plus cher qu'un diamant, et les humains sont des esthètes.
Le défilé des wagonnets dorés à la feuille, des châssis cloutés de saphir et des pinces de préhension gréées de longues chaînes d'argent était un moment magnifique. Pendant toute la durée du marché, les vendeurs rivaient leurs bulles de survie dans la plaine de Korolev, à l'abri des falaises sur lesquelles se brisent les vents solaires. Au-dessus, ils tendaient de grandes voiles très blanches. Des troupeaux de bulldozers circulaient entre les tentes, soulevant des nappes de poussière qui s'étiraient en scintillant d'un bord à l'autre du cratère. De petits équipages de pirates, vifs et légers, tournaient alentour comme des électrons. Puis arrivaient les sous-lunaires, puissants et livides, qui marchaient courbés pour ne pas voir l'immensité de l'horizon. Ceux-là bâtissaient, à distance des tentes, de lourds abris en régolithe compressés sous lesquels ils attendaient la fin du jour lunaire en jouant au go. Après le crépuscule solaire, de longues processions cultuelles serpentaient entre les temples, unissant pour un bref moment le pirate des Highlands, couleur de sable, cruel et rieur, le lunaire immense, cousu de joyaux et plus qu'à demi-fou, le grave sous-lunaire pétri d'angoisse, le polaire, le notonnier de la face bleue et quelques autres. Sitôt les célébrations terminées, les sous-lunaires concluaient leurs affaires dans la hâte et la brutalité. Ils désossaient les robots à même le sol, volaient les pierreries au flanc des pelleteuses et retournaient s'engloutir sous la roche, laissant derrière eux des ruines, des déchets et des plaintes. Les pirates s'empressaient de rafler les débris et s'adonnaient à la fornication avec les hubots du temple d'Inan, dont la peau était douce et qui tombait en poudre entre leurs bras. Les pirates étaient de grands gaspilleurs de temps et de sang, toujours empêtrés dans des luttes intestines, mais résistants et sans peur. Les notonniers des mers de la face bleue les employaient volontiers comme seconds, comptant sur leur âpreté au gain et leur mépris pathologique de la mort. Les pirates savaient faire traverser la moitié de la lune à une flotte de bulldozers et la livrer intacte, quitte à mourir à la tâche. On les surnommait « les chiens de berger ». L'expression est tombée en désuétude depuis la fin des invasions, et depuis que toute mémoire de ce qu'était un mouton a disparu. Au marché de Korolev, il ne se passait pas une saison sans qu'un équipage pirate surgisse d'un des cratères mineurs pour enlever une poignée de clients et l'emmener on ne sait où. Personne n'est revenu pour le dire. On a parlé de sacrifices rituels, mais je n'ai, pour ma part, jamais rencontré de pirates ayant la fibre mystique. Ils n'avaient d'intérêt que matériel et d'ambition que de finir vieux et gras, ce qui ne leur arrivait pas. Je suppose qu'ils mangeaient leurs captifs, voilà tout. Tous les gens fréquentant le marché de Korolev affectaient une profonde détestation des lois. Les théatèmes surtout. Les femmes théatèmes superlativement ne se laissaient capturer par aucune autorité lunaire. Elles préféraient fracasser la visière de leur scaphandre contre une roche. J'ai vu il y a peu, à Jaxa, une théatème et une fille d'Eymin négocier un chargement de résine. L'une était fière et avide, l'autre peu pressée de conclure. Il était aisé d'imaginer ces deux femmes un siècle plus tôt, debout sous les étoiles au centre du marché de Korolev, étalant d'une main un peu de gel sur les ponçures de leur scaphandre, tout en se jetant des chiffres à la face, l'une rêvant de manger l'autre qui se pourléchait en secret de la fin de la première, toutes les deux étant parfaitement au courant de leurs pensées mutuelles. Mais la pression lunaire a tranché en faveur des filles d'Eymin. Les quelques théatèmes survivants tournent désormais en sous-sol, dans les tubes, comme au fond d'une cage, levant vers le plafond de pierre leurs yeux obliques, altérés d'espace. Les riches filles d'Eymin les toisent depuis des balcons ouvragés. Sur terre, il semble qu'on pouvait vivre de rapine, vivre sur le pays, disait-on. Mais la lune n'est pas un pays sur lequel on peut vivre. Depuis que tous les lunaires ont quitté la surface pour devenir des sous-lunaires, ou sont morts irradiés, le marché de Korolev est à l'abandon. Seuls quelques mini-colas et une famille de grumgeurs fous peuplent ses ruines. De temps en temps, le patrimonial envoie deux colmateurs avec un fil à plomb pour sauver un clocher de l'effondrement. 12e du 5e mois de l'an 2325, Highlands. Nous voilà au sud du cratère des Dalles, sur le seuil d'une immense baie miroitante lavée par le feu blanc des étoiles. Plus nous nous enfonçons dans les Highlands, plus toute chose semble s'accentuer, s'exagérer. Tout se fait plus imposant, la hauteur des falaises, la profondeur des cratères, et l'énormité des roches qui en émergent comme des créatures marines figées. Alors que le rover montait une côte, j'ai cru voir la silhouette de Sileki se découpant en sombre contre un ressaut gris-d'astre. Accroupie sur une corniche, elle semblait repiquer quelque chose. J'ai suivi des yeux cette touchante pareille d'Oli. Mais la voir apparaître si brusquement, et comprendre avec autant de brutalité que ce n'était pas elle, m'a physiquement secouée. Depuis quelque temps, je suis atteinte de sensations fortes. Je les vois comme des images incarnées. Et c'est ma chair même qui est livrée aux caprices des images. Pour le coup, il s'agit d'un dysfonctionnement avéré, prolongé. Mais je ne sais pas quel remède y apporter. Peut-on cesser de voir une fois qu'on a vu ? J'ai été distraite de mes soucis par les gémissements de Louge. Passant et repassant ses longues mains devant son visage, il s'est plaint.
« Il y a des sillages brillants qui traversent mon champ de vision. »«
Ferme les yeux. »«
Mais ils me pourchassent même quand je ferme les yeux, à l'intérieur de mes paupières. » »«
On t'a déjà parlé des vents solaires. » Tu sais ce qu'est une particule chargée? Bien. Je crois que tu vas devoir supporter ça jusqu'à ce que nous ayons atteint le refuge soulinaire du gardien des glaces, à Etken. Louge n'a pas pour autant cessé de geindre, mais il y a mis plus de résignation. Nous avons poursuivi notre cahotage dans l'immensité grise de la surface gelée, et j'ai songé au terme cabotage. J'ai songé qu'en d'autres temps, sous d'autres cieux, à la faveur d'autres paramètres, tous ces trous béants auraient pu être emplis d'eau. Je l'imagine, cette eau, si profonde et transparente, formant jusqu'à l'horizon un ciel inversé, un océan noir où flottent les étoiles. Des plantes y auraient dérivé comme de longues chevelures, en soufflant vers le ciel une buée humide. À la place de ce paysage semblable à un sac de pièces qui a crevé dans la poussière. L'eau sur la lune, voilà une image absurde mais plaisante. Je me fais la réflexion que tout cela, l'eau liquide, les algues dérivantes, le souffle mouillé de la mer où voguent les oiseaux, tout cela a existé sur la Terre. Quelle torsion du réel a été assez violente pour tout détruire ? La question reste un éternel débat. Mais il s'agit d'une torsion initiée par des cervelles semblables à celles que Louge abrite sous la mousse fine de ses cheveux. La distance symbolique entre l'ampleur de la catastrophe et la gracilité de ce crâne est difficile à appréhender. L'enchaînement causal, je le connais. Trop de technologie pour trop peu de discipline. Pas de garde-fous éthiques, de recul, moins encore. Mais toujours symboliquement, le crâne humain ne peut-il pas être vu comme la gourde de désastre que porte à sa ceinture le dieu Kamba ? Celui qui viendra à bout de tout, même du temps. Il me semble que, là où Louge aperçoit les fantômes de ses amis, je commence à distinguer le spectre de toutes les plantes, de toutes les fleurs qui n'ont jamais pu pousser, des insectes qui n'ont pas éclos, des oiseaux qui n'ont pas volé. Cette allée fantasmatique que j'emprunte, fleurie d'images sauvages et éplorées, ce n'est pas une voie très plaisante. Mais c'est celle qui s'ouvre à moi. Une météorite est tombée à 2 mètres, directe et perforante. Louge a sursauté violemment. Le panache de poussière est monté et s'est épanoui au-dessus de nous. Le rover s'est immobilisé sous le nuage qui retombait lentement en scintillant. Le jour solaire se lèvera bientôt. Le soleil menace. Bien sûr, Louge s'est plaint.
Mais on ne voit plus rien.
La couche de poussière dont le rover est couvert lui permettra de mieux disperser la chaleur si nous n'arrivons pas avant l'aube chez le gardien des glaces.
N'empêche qu'on ne voit plus rien.
Évidemment, ça ne facilite pas la visibilité. Le rover repart. Louge et moi sommes enclos dans un cocon gris pâle. Moi aussi je regrette la vue. Le blanc et noir des roches. Le gris si intense du régolithe, la sinuosité presque vivante des rilles, la majesté des pitons dressés, l'abondance des étoiles et, par-dessus tout ça, la splendeur du vide. Louge s'est mis à causer. Il a parlé de Pagpapatapon, de sa vie là-bas. Il a évoqué le système pénal de la cité. Je suppose qu'il se sent concerné. Il y a quelques jours, il a assisté à une exécution judiciaire.
Une famille devait en indemniser une autre pour une obscure histoire de jardinière desséchée. J'étais au premier rang. J'ai assisté à la remise de la compensation.
Qui était ?
Un robot pédiatrique. Une yaya, quoi. Sous les yeux de la juge, une imposante bonane, le défendeur s'est levé. Il a agité les bras en direction d'un de ses fils qui gardait le robot. Le garçon s'est avancé, suivi par sa yaya botte. Tout le monde se taisait.
C'était une yaya dernier cri ?
Pas du tout. C'était un assez vieil engin à 3 bras, les traits figés en un large sourire, avec une peau qui plissait mal et des yeux qui clignaient en 2 temps.
Je connais ça.
Il marchait en émettant un léger sifflement pneumatique. Le défendeur l'avait vêtu d'une robe de maille neuve et d'un large tablier blanc et festonné complètement. Complètement ridicule. Moi, j'étais là, l'assemblée se taisait toujours et frémissait, parce que les bottes passionnent les gens.
Je sais ça. Ils ont l'œil à chaque composant. Ils savent évaluer poids et performance au gramme, au centième de seconde, au millimètre près.
Et soudain, dans le silence tendu, la demandeuse s'est dressée et elle a éclaté en imprécations. Elle a pris à témoin tous les dieux que rien n'était plus antique et plus obsolète que ce robot, que certainement cette Yaya avait bercé le premier bébé lunaire et l'avait peut-être même étranglé. Qu'elle devait faire de l'huile sous elle, que jamais une famille ne lui confierait un nourrisson, que ses articulations étaient grippées et ses vérins rouillés. Tu penses bien, le camp d'en face a explosé en serment contraire, jurant qu'il n'y avait pas plus collaboratif que cette nounou, que l'extraction de caractéristiques était flambant neuve et les couches cachées innombrables, que la brave machine avait materné chacun d'entre eux avec tendresse et que c'était vraiment planter des patates dans un cratère que de confier une yaya bénéficiant d'un tel capital mémoriel à des gens si rustres. Et ensuite, la juge a gardé le silence. Et elle était si massive, si écrasante, que l'assemblée a fini par se taire.
Louge, à ce souvenir, aurait pu se mettre à rire, mais il s'est mis à pleurer. Après avoir essuyé ses belles joues sombres avec ses doigts, il s'est expliqué.
Parmi les cris de rage, le bot est resté immobile, souriant toujours démesurément et clignant des yeux, raide dans sa robe en tricot et son tablier grotesque. Puis il s'est tourné pour regarder derrière lui. Accroupi sous la balustrade du tribunal, il y avait un petit garçon qui sanglotait. La nounou avait sûrement reçu l'ordre de ne pas bouger. Mais cette commande entrait en conflit avec ses routines de maternage. Elle a tangué un peu en émettant son sifflement pneumatique, puis elle a enchaîné à deux mains les gestes de la ronde des cailloux, une comptine que toute la lune connaît. Deux pinces, deux pirouettes, deux moulinets, etc. Tu la connais ?
Je connais la ronde des cailloux.
Le petit a cessé de pleurer, a continué Louge. Mais on sentait que c'était pour faire plaisir à sa yaya. Il a commencé à mimer lui aussi la ronde des cailloux. Il essayait de sourire, mais il avait les yeux gros de larmes. Pendant que tous ces imbéciles braillaient comme si ce robot n'était qu'un tas de boulons, comme si son départ ne faisait aucun mal. Ils ont continué tous les deux à chanter ensemble, le gosse et sa yaya, en silence, au milieu des hurlements. Jusqu'à ce qu'on emmène le bot.
Louge s'est tue. Il a l'air très déprimé. Les citadins sous lunaire tolèrent mal les grands espaces. Je regarde Louge de temps en temps pour m'assurer qu'il va, sinon bien, du moins pas plus mal. Je ne sais trop comment faire face à sa sensibilité débordante. Certes, il est tout à fait admirable de forme et peu contrariant en acte. Sensible et serviable, certainement. Je veille avec soin sur ses besoins primaires. Pressurisation, oxygénation, hydratation, sustentation et verbalisation. Mais je n'ai pas la volonté d'enrichir son esprit avec le mien et réciproquement. Je ne suppose pas de porosité entre nous. Je n'ai pas pour lui cette attention passionnée que je portais à Sileki. La même phrase tourne à nouveau dans mes pensées, et elle mute. Sur ce sentiment inconnu et dont la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le beau nom grave d'attention. S'il faut parler d'attention, alors non, je n'ai pas pour Louge celle que j'avais pour Sileki. Et pourquoi ? Faut-il que je cherche ce qui crée une affinité ? J'ai prêté mon attention à Sileki parce que j'ai passé du temps avec elle, parce qu'elle était horticultrice dans l'âme et parce que sa réserve répondait à la mienne. Mais en temps objectif, est-ce que je ne viens pas d'en passer davantage avec Louge qu'avec elle? Ai-je donné à Louge la moindre opportunité de partager avec moi des vues sur les légumes? La réponse à cette question a déjà été donnée depuis longtemps, bien sûr. Parce que c'était elle, parce que c'était moi. Mais savoir si les mots m'aident à comprendre ou s'ils captent ma pensée fluide, ce flot écumant d'images pour imposer leur propre vue, leur propre tracé, je ne le discerne pas.